Bien, bonjour à tous, merci de votre disponibilité. J'ai souhaité réunir ce conseil municipal avec un ordre du jour restreint pour ne pas retarder un certain nombre de chantiers. Et comme vous le savez, c'est la doctrine que nous nous sommes donnée dans ce mandat, c'est de réunir le conseil municipal autant de fois que nécessaire pour ne pas accumuler de retard dans le déploiement et de nos services publics et de nos programmes de travaux. Je vous propose donc de procéder d'abord à la liste, à la lecture des pouvoirs.
Monsieur Dordogne, pardon, à Madame Chaillou-Cochelin, Monsieur Verniol à Monsieur Ribaud, Madame Seigneur à Monsieur Huvard, Madame Grangier à Monsieur Crabbe, Monsieur Leduc à Monsieur Crabbe, nous sommes en état d'urgence et donc Monsieur Crabbe, un élu peut avoir deux pouvoirs. Madame Guillochon à Madame Catesson, Madame De Soncé à Monsieur Castagnier, Madame Duez à Monsieur Huguet.
Je vous remercie. Le quorum est donc atteint largement. Je profite d'ailleurs pour signaler que ce sera très probablement notre dernière réunion dans cette salle avant de réintégrer l'hôtel de ville. Je vous signale la remise sur table, en tout cas plutôt maintenant c'est dématérialisé, donc l'envoi par mail en urgence d'une convention de mise à disposition de locaux au profit de l'association ATD Carmonde que nous examinerons à l'issue de l'ordre du jour. Je vous propose d'approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal qui vous a été adressé, ce qu'il appelle les observations de votre part. Je n'en vois pas. Je propose de le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Il est donc adopté. Je propose de nommer M. Yannick Ribaud, secrétaire de séance. Voilà. Avec son accord. Et je vous propose d'examiner donc les projets de délibération qui relève tout d'abord de l'Office du tourisme et du commerce. Chacun en a été destinataire. Alors, il s'agit de le faire aujourd'hui pour pouvoir ouvrir dans les plus brefs délais, à l'issue du déconfinement. Il s'agit d'adopter le règlement du camping, ainsi que le règlement de l'aire d'accueil pour les camping-cars qui avait été improvisé l'année dernière et qui avait connu un vif succès, ainsi que les tarifs qui sont obligatoires. Je vous propose également d'adopter l'idée d'une gratuité d'accès à Aquaval après 16 heures pour tous les clients du camping. Ça me semble un atout majeur pour le camping. De valider la convention de billetterie qui a été mise en place avec l'Office du tourisme de Chartres, qui est aujourd'hui une société publique locale, qui s'appelle C Chartres Tourisme, ainsi que la convention financière afférente avec la ville de Nogent-le-Rotrou. Alors peut-être, avant d'examiner chacune des délibérations, vous dire que le tourisme est une compétence qui est extrêmement partagée par la région, le département. La loi l'attribue principalement à la communauté de communes. C'est dans ce cadre que l'Office du tourisme et du commerce est un établissement public de la communauté de communes. Mais la ville reste gestionnaire du camping que nous n'avions pas ouvert l'année dernière parce que nous étions sous l'empire du confinement et des nécessités sanitaires qui avaient beaucoup mobilisé les équipes pendant tout le printemps et que donc nous n'avions pas pu ouvrir au dernier moment. Il va de soi que c'est aujourd'hui une priorité parce que la saison 2021 sera, comme la saison 2020, très marquée par le succès du tourisme de plein air, du tourisme de nature, et que si on peut juger des résultats très honorables, voire très positifs, de l'activité touristique dans le Perche l'année dernière, si on l'extrapole à ce qui pourrait se passer cette année à propos dès que le déconfinement aura pris un peu d'ampleur, il est clair qu'il faut anticiper donc une grosse demande. On a chez les marchands de vélos, de camping-cars d'ores et déjà énormément de commandes. On a beaucoup de réservations pour le week-end de l'Ascension dans tous les gîtes d'étapes, les chambres d'hôtes et l'hôtellerie de l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire, dans des proportions d'ailleurs qui sont tout à fait étonnantes. Et l'expérience de l'année dernière avait montré qu'on avait enregistré au niveau, par exemple, de la Loire à vélo ou de la Vélocénie, 20% de touristes en plus, sur des chiffres qui étaient déjà ceux d'un million, hein, donc 200 000 de plus, ce qui était déjà considérable et qui venait après des années qui avaient déjà été des années très hautes. Donc il est la politique qu'on a souhaité mettre en place avec l'Office du tourisme et du commerce, et notamment pour le camping, elle est la suivante, c'est de dire qu'il faut aller chercher le touriste là où il est, que dans ce cas-là, il faut nouer des partenariats avec Char, notamment, qui est la porte d'entrée principale des touristes de l'Île-de-France ou étrangers dans notre département. Expérience qui a été extrêmement concluante, par exemple, pour l'abbaye de Tiron, qui, depuis qu'elle a noué ce même type de partenariat avec avec l'Office de tourisme de Chartres, a vu à travers la plateforme le nombre de ses réservations augmenter de 30% uniquement grâce à la plateforme, donc ce qui est bien la preuve qu'aujourd'hui le numérique se joue sur les plateformes de réservation en ligne et non plus sur les sites internet ou les flyers papier, et que les flux, il faut aller les chercher de là où ils sont, c'est-à-dire sur internet et dans les grandes agglomérations. Et je considère qu'on a perdu trop de temps dans notre territoire à discuter entre communautés de communes du Perche pour essayer de se mettre d'accord, alors qu'il est de toute évidence que ces discussions ont un intérêt, un résultat proche de zéro. On a un problème de coordination des politiques touristiques au niveau du Perche, entre un parc naturel, deux PETR, une dizaine de communautés de communes qui toutes s'estiment être la porte d'entrée principale des touristes dans le Perche. Mais la vérité, c'est que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de faire venir les gens et d'aller les chercher sur leur point de départ. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a la plateforme de réservation. Donc je vous propose, dans l'ordre logique, de ne pas passer par l'ordre du jour qui a été mis, mais de regarder d'abord la convention de billetterie avec la société publique Séchartres Tourisme, page 13. Ça, c'est le premier point, à mon avis, le plus fondamental. Bon, ça suppose une convention financière avec la ville de Nogent-le-Rotrou, c'est celle qui suit. Et ça, c'est le nœud de notre nouvelle stratégie pour notamment le camping, mais plus généralement pour l'Office du tourisme, puisqu'il y a la même convention qui va être nouée avec le château des Comtes du Perche. Ce sera une délibération ultérieure. Elle se décline dans les différentes activités de l'Office du tourisme et du commerce. Et ensuite, s'agissant du camping plus particulièrement, on a le règlement. Donc voilà pour l'équilibre général. Donc après, il y a un certain nombre de textes qui sont des incontournables. Donc en les prenant dans l'ordre, la convention de billetterie, elle a amené la ville de Nogent à devenir actionnaire de Séchartres Tourisme. Il y a des commissions tarifaires par transaction avec des plafonnements. Est-ce que cette délibération appelle des observations ou des questions ? Monsieur Castagnier ?
Oui, monsieur le maire. Je voulais savoir si une telle convention avait été aussi envisagée avec la ville de Chartres, enfin l'office de tourisme du Mans.
Non.
D'accord.
D'abord parce qu'ils n'ont pas la même plateforme Internet.
D'accord.
Alors que Chartres en a une qui est vraiment très moderne. Ensuite, ils ne sont pas une société publique locale. Je crois qu'ils sont toujours sous la forme soit d'un EPIC, soit d'un... Enfin, c'est un office de tourisme, hein. C'est pas une entreprise. Mm-hmm. Et donc, ils ont une... voilà. Et puis, par ailleurs, les touristes qui viennent chez nous viennent de Chartres, en général. De Chartres ou de Paris. Le flux... Alors, il y a des contestations sur le point de savoir combien il y a de visiteurs à la cathédrale de Chartres, si c'est 200 000 pour les tours ou 600 000 pour ceux qui viennent vraiment voir la cathédrale, ou 1 million comme le disent certains élus chartrains. Mais alors, à ce moment-là, il faut prendre dedans la totalité des gens qui passent par Chartres, même si ils y vont pour un autre motif et ils regardent la cathédrale en passant. Bref, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce sont des chiffres sans commune mesure avec ceux du Mans, qui n'offrent certainement pas aux yeux de, ben voilà, aux yeux des tours opérateurs la même proximité ni le même intérêt architectural. Donc là, le porte-avions du tourisme, c'est vraiment la cathédrale de Chartres et du coup l'offre touristique qui l'accompagne à Chartres. Et l'objet de notre affaire, c'est tout un programme qui a été un peu présenté en commun avec la présidente de la Vélocénie, Isabelle Ménard, lors d'un récent point presse, c'est d'avoir des offres conjointes, des parcours, des prestations de services communes, et par ailleurs une possibilité de réservation qui figure en haut du site de réservation de Chartres, qui concentre un très très gros trafic de réservations. D'où les tarifs et les commissions qui sont proposées.
D'accord. Et donc, mais il n'y aura pas de communication sur notre camping municipal, par exemple, dans les offices de tourisme environnants, et pas, par exemple, celle du Mans.
Lesquels, pardon ?
Par exemple, l'office de tourisme du Mans, on n'aura pas forcément de communication sur notre camping municipal.
Ben, on n'a pas pris ces contacts-là, mais l'autre intérêt, c'est que Chartres, c'est le point de départ avec maintenant nos gens de la Vélocénie. Donc c'est aussi le premier barreau d'un trafic qui concerne plus d'un million de touristes, indépendamment de tous ceux qui n'empruntent pas le vélo. Donc voilà, à ce stade, nous sommes d'abord sur Chartres, qui est vraiment la clé de l'affaire.
Je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant dans un deuxième temps d'essayer d'étendre.
Bah, on se sera examiné, mais absolument.
Merci à vous.
D'autres questions ? Je n'en vois pas. Je vous propose d'adopter cette convention. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des oppositions ? Elle est donc adoptée. Merci de m'avoir autorisé à la signer. Il y a une convention financière afférente. Qui est page 20 et qui est là aussi, qui n'est pas un programme d'action, qui n'est pas, pour éviter les débats que nous avons eus en conseil communautaire, qui n'est pas un programme de travail, mais qui est simplement la base réglementaire, contractuelle qui est juridique, donc qui autorise les versements entre notre office et la ville, notamment s'agissant des recettes du camping, des ventes de tickets de manège, bref, tout ce qui relèvera, tout ce qui sera mis en œuvre par la ville, mais qui sera traité en prestataire par, et conventionnellement par l'Office du tourisme. Est-ce qu'il y a sur cette convention des questions ? Je n'en vois pas. Bon, la lecture de ce document n'est pas des plus passionnantes, mais elle est une formalité obligatoire. Je propose de la soumettre au vote. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Je n'en vois pas. Après, il y a, s'agissant du camping à en régler... les conditions d'accès, donc c'est le règlement du camping cycliste et randonneur, puisqu'on a souhaité donner au camping une ouverture vélo et une ouverture randonnée très affirmée, qui permet donc de s'inscrire dans un tourisme vert, de s'inscrire dans la Vélocénie par rapport à la voie verte sur laquelle ce camping est situé, et avec un accès par la gare, puisque les trains de Paris sont accessibles en vélo et que une partie importante du flux arrive à nos gens par vélo, mais par le train. Donc, on vous a proposé un projet de règlement intérieur conforme au Code général des collectivités territoriales et à c'est le résultat d'un travail conjoint avec Chartres, qui a ouvert son camping sur les bords de l'Eure avec le même esprit Et j'ai lu sur ce point un article dans l'Écho républicain de ce matin qui en faisait état. Est-ce qu'il y a sur ce point des questions, Monsieur Castagnier?
J'ai juste une demande. Est-ce que parce que j'ai vu qu'il y avait quelques campings municipaux qui proposaient un service de conciergerie. Et est-ce que ça serait envisageable est-ce qu'il a été envisagé de mettre en place ce service-là, notamment pour les cyclistes, pour qu'ils puissent en fait, laisser leur bagage au camping et puis après aller se balader dans les différents points touristiques?
Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle un service de conciergerie, mais s'il s'agit d'avoir des boîtes,
c'est ça,
des casiers sécurisés, ainsi de suite, il y en a. Hein, donc, ce n'est pas un service qu'on fait payer en tant que tel, mais il est inclus dans les prestations de base
du camping.
Du camping.
Très bien.
Après, pour tout ce qui est repasser les costumes et tout ça, ce qui est quand même la préoccupation première des cyclistes, on peut aussi avoir recours. Enfin, il y a des services de conciergerie en ville qui se développent à titre commercial et individuel. Et il y a aussi des commerces qui sont accessibles. Mais de toute façon, il y a un accompagnement. Un des enjeux, c'est d'avoir un accompagnement des cyclistes, enfin des clients, par les équipes présentes sur le camping et autour du camping. Sachant que par ailleurs, vous allez le voir, comme on a un partenariat avec Aquaval, c'est aussi au guichet d'Aquaval que se joue une partie de l'information et de l'orientation des campeurs.
Mais en fait, je pense que même certains touristes, enfin cyclotouristes, qui viennent à nos gens sur la journée pourraient peut-être être intéressés, par exemple, par un service pour laisser leurs bagages, pas forcément du coup les campeurs, mais donc si ça pouvait être accessible également aux cyclotouristes qui vont pas forcément donc, camper, ça pourrait aussi être intéressant.
Alors ce service est offert dans le camping. Pour les gens extérieurs au camping, de toute façon il y a des projets de conciergerie en ville qui sont très récents, qui ont été créés depuis quelques semaines je crois, et dont sans doute il conviendra de faire plus largement la publicité, mais qui sont des initiatives privées, même si la mode se répand de conciergerie de centre-ville un peu partout aujourd'hui en France.
Très bien, merci.
Alors je procède au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Ce projet de règlement est donc adopté. Dans le même esprit, il nous faut régler l'aire d'accueil et de service pour les camping-cars, qui est distincte du camping, mais que nous avons aménagé l'année dernière. Et l'équilibre, le document nourrit quelques ressemblances avec le précédent. Je signale que l'aire de camping-car avait connu un grand succès dès le premier jour et ne s'est pas démenti jusqu'au bout. Donc c'est l'occasion de formaliser l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et l'ensemble des services de base nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des oppositions? Il est donc adopté. Après, discuter des tarifs pour les deux, et le camping et l'aire d'accueil des camping-cars. Donc nous avons retenu des tarifs qui sont des tarifs de base. L'objet n'est pas pour la ville de s'en faire une source de revenus qui lui permettra de financer les travaux que nous avons programmé pour les 6 prochaines années dans l'ensemble de notre périmètre urbain. Donc on reste sur des choses qui sont assez imbattables. Il faut dire que le site est quand même assez charmant, en bord de Luynes, avec de grands arbres, mais les prestations sont quand même assez minimales. Évidemment, on pourrait envisager des tarifs plus élevés s'il y avait plus de prestations, comme par exemple une piscine, mais on a trouvé une autre solution qu'on vous exposera juste après. Donc sur ces tarifs, est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas, ils ne sont pas ruineux. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des oppositions? Je n'en vois pas. Il est donc adopté. Et ensuite, il y a une proposition qui est plus innovante, c'est de permettre aux campeurs d'avoir accès le soir à Aquaval. Donc à partir de 16h le soir. Donc c'est l'apéro élargi, en mode juillet-août. Alors, vous me direz, à la comparaison des tarifs, fait qu'il est peut-être plus avantageux de réserver une nuit au camping pour pouvoir accéder ensuite à la piscine. Mais ça fait quand même bien du tracas pour rien. L'idée, c'est vraiment que ceux des campeurs qui sont là puissent enjamber la passerelle et le soir, donc, profiter de cette installation. Je pense que c'est quelque chose qui se soldera par un manque à gagner pour le syndicat Aquaval, qui sera compensé par la ville. Mais je crois que ça nous fait quand même... un atout majeur pour le camping, et ce sera valorisé comme tel sur le site de Chartres, puisque nous on ne pourra pas présenter un camping avec piscine, mais la formule de l'accès gratuit à la piscine sera immédiatement valorisée et mentionnée dans la présentation de notre camping, ce qui lui donnera n'en doutons pas, un énorme avantage par rapport à tous les autres campings qui se situent aujourd'hui sur le parcours. Est-ce qu'il y a sur ce point des questions ? Alors, 16h au paragraphe 4, oui. Et dans la convention. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le numéro de page ? Non, mais vous embêtez pas. Quand vous l'aurez repéré, on prendra la liberté de le corriger avec l'assentiment de tous ici. Donc, tout le monde est d'accord avec cette proposition ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Je n'en vois pas non plus. Elle est donc adoptée. Je vous propose d'examiner maintenant des sujets. Page 18. Tout le monde d'accord ? Eh bien, bravo Nadine. Merci à vous deux. Pour la clarté de notre exposé, je vous propose d'examiner la convention sur le tourisme entre Chartres et le château des Comtes du Perche de la même façon. Est-ce que Madame Catesson veut en dire un mot ?
Oui, donc le sujet avait été évoqué en décembre dernier, puisque le conseil municipal a voté le fait de devenir membre de la société publique locale Séchard Tourisme, dont la mission est d'assurer la promotion touristique d'actions proposées par les acteurs locaux et également d'assurer une mission d'information. Donc il est donc proposé au conseil municipal de signer une convention avec la SPLC Chartres afin de permettre la vente de billets d'entrée au château des Comtes du Perche, non seulement pour la visite du château mais également pour toutes les animations qui y sont organisées. Donc sur le principe, Chartres assure la réservation et reverse la totalité du montant des billets en prenant juste une commission de 50 centimes. Donc cette convention, si vous en êtes d'accord, elle sera signée pour toute l'année 2021 et pourra éventuellement être renouvelée. Et à terme, on envisage aussi de l'étendre à d'autres produits culturels.
Absolument, puisqu'il y en aura d'autres. Il y a d'autres produits, d'autres offres de circuits groupés, de voyages qui seront développés dès que cette convention aura été mise en route. Est-ce qu'il y a sur ce point des questions ? Alors j'en profite pour signaler que le musée réouvrira donc à la première heure le lendemain du 19 mai avec une exposition temporaire de Jean-Pierre Chandavoine et avec des collections permanentes qui ont été enrichies notamment par l'acquisition d'un buste en bronze de Sully, enfin du même exemplaire que celui dont nous disposions dans le jardin de l'Hôtel Dieu avant que l'armée allemande ne nous l'emprunte pour en faire des canons Krupp. Pas d'autres questions ? Monsieur Castagnier.
J'avais juste une question sur le projet de salon de thé qui avait, je crois, été évoqué il y a un peu longtemps et savoir si c'était un projet qui était toujours à l'étude sur le château ou pas.
Alors, c'était le restaurant qui avait été envisagé dans le pavillon de l'intendant du château. Donc, le projet a été mené. Il est à un moment donné passé dans la main des architectes des monuments historiques qui ont considéré que l'ensemble du bâtiment était donc classé dans son intégralité. Pour bouger une poignée de porte, il fallait refaire l'encadrement de la porte. Pour refaire l'encadrement de la porte, il fallait repérer les fissures qu'il y avait de chaque côté. Il fallait donc les consolider, mais on ne pouvait utilement consolider les fissures que si on reprenait les fondations. Et donc, avant même de pouvoir envisager d'installer quoi que ce soit dans ce bâtiment, nous avions un devis pour 2,5 millions de travaux à la charge de la ville. Et nos prédécesseurs, dont certains d'entre nous faisaient partie, ont estimé que 2,5 millions pour ouvrir un restaurant, c'est quand même déjà une bonne mise de départ. Du coup, le modèle économique est quand même assez compliqué à atteindre. Et que, par ailleurs, sur de telles sommes, on pouvait peut-être envisager d'autres priorités. C'est-à-dire qu'avec ça, on pouvait faire... on a fait les voies vertes, on a fait le parc de Plé, on a fait tout ce qui a été fait depuis lors et que nous n'aurions pas pu faire si nous n'avions fait que cela. Donc, le vrai sujet, c'est que ces bâtiments-là sont tous classés. C'est le même problème qu'à le département sur l'abbaye Saint-Denis ou la maison du Bailli, et que donc ou qu'on a d'ailleurs sur le tombeau de Sully aujourd'hui, et qui fait que ne toucher ne serait-ce qu'à un éclat de peinture engage des dépenses qui sont sans commune mesure. Donc on a aujourd'hui une analyse et une étude qui avance bien sur la courtine, enfin le mur d'enceinte dont une partie du château est fragilisée. J'ai le plaisir de vous annoncer que quand le devis va arriver, nous allons en discuter. Voilà, ça fait partie des particularités de cette ville qui, depuis qu'elle a acheté le château en 1950, en assume seule la restauration. Et donc, on peut saluer l'effort du contribuable Nogentais, qui est aujourd'hui le seul contribuable du département à avoir à sa charge un aussi gros monument historique classé. Puisque, comme vous le savez, Notre-Dame appartient à l'État. La Ferté-Vidame est maintenant songée par le département. Le château de Châteaudun est géré par l'État. La chapelle royale de Dreux, je ne sais pas si elle est gérée, mais en tout cas, manifestement, ils ont l'air de bien s'occuper, à discuter entre eux. Enfin bref, tous les grands monuments touristiques sont à la charge. La maison de Marcel Proust, qui n'est pas une grosse destination, mais est au département. Bref... nous sommes, et en plus elle n'est pas classée puis c'est une simple maison, mais bref, le château de Nogent qui était en ruine intégrale quand il a été racheté par la ville, puisqu'il n'y avait plus de toit, enfin il y avait un toit mais il laissait passer l'eau jusqu'au rez-de-chaussée. Tout ça est une charge extrêmement lourde.
C'est pour ça que je reste persuadé que la gratuité pour les habitants de Nogent pour le château pourrait être une bonne chose.
Oui, alors on ne va pas refaire le débat, pour le coup, vu le nombre d'entrées, la gratuité, alors ça rajoute un coût supplémentaire. Vous savez, la gratuité, on est à front renversé, parce que normalement ce sont les socialistes et la gauche qui plaident la gratuité et la droite qui dit « ah, ah, ah ». Bon, alors je vais vous donner l'argument d'une partie, et que pour le coup, je crois, la gratuité, c'est un concept qui n'existe pas, puisque à la fin, il y a toujours quelqu'un qui doit payer.
Mais je suis bien d'accord.
Et en l'occurrence, la gratuité pour les habitants de Nogent, c'est une charge pour le contribuable nogentais. Donc ce sont juste un petit peu les mêmes.
Je pense que ça peut être une source de revenus également, par le fait que lorsqu'on a de nos familles ou des amis qui viennent visiter la ville, on pourrait plus facilement les amener avec nous. Pour visiter
alors, donc ça, ce sont des non-nogentais. Et puis alors, je vais vous dire l'argument du coup inverse, c'est que du coup, on rend gratuit, enfin, on favorise ceux qui ont le réflexe d'aller au château aux dépens de l'ensemble des citoyens qui paient des impôts. Et donc, on fait de la redistribution à l'envers, puisque de fait, ceux qui vont au château, en général, ce n'est pas la partie la plus défavorisée de la population. Et donc, on fait payer par tout le monde un service qui bénéficie uniquement à ceux qui ont le loisir et l'envie d'aller régulièrement visiter le château.
Et justement, ça permettrait d'ouvrir un petit peu plus socialement aussi. Là.
Et voilà, et c'est à ce stade en général que, au ministère de la Culture, s'arrêtent les débats, puisque en attendant qu'on ait tranché cette question. Mais il y a très peu de musées gratuits en France.
Non, mais je parle uniquement pour les habitants de Nogent.
Et donc il y a très peu de dispositifs de ce type aujourd'hui en France. Donc voilà où nous en sommes. Donc sur cette délibération, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais on pourra refaire le débat la prochaine fois, prochaine occasion, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et puis en plus maintenant c'est fermé la moitié de l'année, donc du coup... prononcer la gratuité pendant les périodes de confinement. Ça, tout le monde sera content. Bien. Est-ce qu'il y a des abstentions sur ce point? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous en remercie. Je pense qu'on aura l'occasion au bout d'un an, je pense, de voir déjà la différence sur le nombre et la fréquentation du château. Je vous propose de revenir aux ressources humaines. Alors, je suis désolé, c'est ressources humaines, c'est moi qui les présente d'habitude, donc je m'y colle également. Il nous est proposé de créer un poste d'attaché au service de l'eau et de l'assainissement. Je vous rappelle... dans quel ordre on les prend? Oui. Donc on a un agent qui est parti à la retraite, qui s'occupait de l'eau et de l'assainissement et qui était arrivé au stade ultime de sa carrière administrative et de ses échelons. Donc il s'agit de le remplacer par un attaché. On a procédé à une réorganisation qui permet de recruter sur son poste un technicien. Et par ailleurs, il y aura aussi à COTEP, c'est bien ça, Madame la Directrice, un recrutement complémentaire.
Ce technicien est censé travailler pour l'eau et l'assainissement, donc pour le SIACOTEP et pour la commune.
Donc on en reparlera au SIACOTEP pour ceux d'entre vous qui y siègent. Et par ailleurs, du coup, ça nous permet d'avoir ce qui nous manque, c'est-à-dire un agent techniquement pointu et compétent pour l'ensemble des sujets relatifs à l'eau. On a la chance d'avoir M. Franchet qui s'en occupait quand il était ingénieur à Chartres Métropole, mais qui aujourd'hui a d'autres chats à fouetter dans les services de la ville par ailleurs. Mais ce sont des sujets extrêmement pointus, avec de gros investissements à la clé, qui ne passent pas par le budget de la ville pour une partie d'entre eux, mais qui passent par le budget du syndicat et qui ont des impacts majeurs, puisqu'on a quand même des réseaux considérable à travers la ville et qu'il s'agit donc de surveiller de près et d'entretenir. Alors, donc les délibérations, ça fait une délibération que je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Je n'en vois pas. Je vous propose de la soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des oppositions ? Je n'en vois pas. Et donc, adopté. On a souhaité également renforcer les équipes du centre social, même s'il n'a plus le titre de centre social, de l'espace de vie sociale, en tout cas des services de la ville qui s'occupent, qui ont pris le relais du centre social dans le cadre d'un emploi aidé, alors qui s'appelle aujourd'hui maintenant parcours emploi compétences. Il s'agit donc d'un poste de médiateur, puisque j'ai estimé que nos équipes, dans le cadre de la réorganisation que j'avais que nous avons délibéré et adopté, il me semblait important de regrouper toutes les équipes sur un même site. Le travail entre les différents services a d'ailleurs d'ores et déjà permis de trouver des solutions avantageuses pour les citoyens. Je pense notamment au rapprochement entre la parentèle et l'accueil de loisirs qui a permis que les gens de la parentèle informe les gens d'accueil de loisirs qu'il y avait des solutions de gratuité importantes qui juste là étaient ignorées. L'ensemble de cette affaire nous libère la maison du tertre, nous économise des logements qui étaient mis à disposition dans les gauches tiers. Je ne referai pas le débat de la dernière fois, mais du coup nous donne des marges pour plusieurs choses. L'accompagnement des publics fragiles, d'abord, la construction d'un programme d'animation dont nous allons reparler, puisqu'il est soumis également à votre approbation dans l'ordre du jour, et également la possibilité de renforcer l'équipe. Donc c'est l'idée d'avoir un médiateur social dont le nom est déjà identifié et que je peux vous partager, puisqu'il s'agit de M. Afid Bouzidane, qui est bien connu de la jeunesse nogentaise, qui est un homme plein d'initiatives qui se mobilise déjà spontanément pour de nombreuses causes dans le quartier et au-delà, et dans lequel et auquel que nous avons souhaité nous associer au sein de l'EVS pour renforcer et la présence dans le quartier, la médiation sociale avec les différents services, l'accompagnement des plus jeunes et aussi la construction du programme d'animation, puisque je souhaite qu'il se passe des choses tous les week-ends et que ce soit également le cas tous les jours pour que les enfants, et notamment les enfants du quartier des Gauchetières, qui sont les plus défavorisés, retrouvent un niveau d'animation qui était celui du quartier il y a encore 20 ou 30 ans. Ça me semble absolument important et crucial pour l'équilibre de l'île. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Donc vous comprenez bien que elle se situe avec un niveau de subventionnement par l'État qui la rend par ailleurs tout à fait acceptable pour nous. Pas de questions ? Pas d'abstention ? Je n'en vois pas. Pas d'opposition ? Et donc, adopté. Il s'agit également de renouveler la convention d'un adulte relais qui avait été conclue en 2018 pour 3 ans, qui bénéficie là aussi d'un financement et que nous souhaitons proposer au renouvellement pour une durée de 3 ans à un agent dont, par ailleurs, nous nous engageons à assurer l'intégration dans nos services à l'issue de ces 3 années qui lui seront proposées. Et pour la clarté du débat, il s'agit du poste de M. Chourac. Est-ce qu'il y a sur ce point des questions ? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Et donc, adopté. On y reviendra sur le programme, le plan d'action de l'EVS, enfin, de l'espace de vie sociale. Je vous propose également une délibération sur la fin de la mise à disposition du boulodrome de la rue des Viennes, qui est un bâtiment construit il y a maintenant plus de 30 ans. Ne sert plus aux entraînements, pendant la totalité de l'année, ne sert plus qu'à une compétition annuelle, a besoin d'énormément de travaux, avec des effectifs du club qui ont été progressivement réduits, et il nous est apparu que la réouverture nécessitait des travaux hors de proportion des finances de la ville, et que le temps était sans doute venu de mettre fin à cette utilisation et d'envisager des usages plus adaptés, en échange d'une proposition que j'ai faite au club d'une subvention exceptionnelle basée sur des indemnités kilométriques qui permettrait au club, qui compte une vingtaine de licenciés, dont une dizaine sont nogentés, de continuer son activité, qui est une activité historique. Est-ce qu'il y a sur ce point des questions ? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a sur ce point des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Des oppositions ? Elle est donc adoptée. Nous avons ensuite une délibération sur le sport de mémoire. Je regarde. Non, ça, on vient de la faire. Le projet d'établissement de l'espace de vie sociale dont vous avez été destinataire. Est-ce qui la présente ? Madame Poirier, Madame Agen ? Je vous en prie.
Donc le conseil municipal 14 décembre 2020 avait acté la création de l'EVS, donc l'espace de vie sociale. C'était à l'origine la maison du tertre. L'EVS a travaillé sur un projet d'établissement qui s'appuie sur 4 axes. Les axes, vous pouvez les voir dans les tableaux colorés. Donc le premier axe, c'est favoriser l'accès aux droits. Le deuxième axe, accompagner les familles dans l'exercice de la parentalité. Troisième axe, favoriser l'accès aux loisirs et aux vacances pour tous. Quatrième axe, développer l'animation de la vie sociale en corrélation avec les habitants et les acteurs du territoire. Donc moi, je vais principalement vous parler des animations parce que je pense que c'est très important, comme vous l'avez développé tout à l'heure, Monsieur Huvard. Donc, à partir du 21 mai, tous les vendredis soirs jusqu'au 2 octobre 2021, hors période scolaire, un club sportif propose une animation au City Stade. À partir du 22 mai, le personnel de l'EVS proposera des animations de quartier le samedi et le dimanche, hors vacances scolaires. Donc, il y aura molki, tir à l'arc, basket, ping-pong, etc. En juin, l'EVS sera partenaire du festival à portée de voix qui se tiendra le 12 juin sur le quartier. En juillet, il est prévu une fête de quartier avec la participation des associations, un spectacle vivant dans le cadre des rendez-vous récup. Ils seront aussi partenaires avec l'association ATD Carmonde pour la fête de la bibliothèque. Ils participeront aussi au quartier d'été avec la bibliothèque et la ludothèque. Et un tournoi de foot sera organisé le 14 juillet. En août, il y aura un cinéma de plein air avec les rendez-vous récup. Et la Ligue de l'enseignement proposera des jeux de bois en extérieur. Et puis, il y aura aussi des jeux gonflables, un magicien, de la danse. Enfin, le mois d'août sera aussi très, très bien occupé. Merci. Donc, sur ces 2 mois d'été, voire 3 mois d'été, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup d'animations proposées sur le quartier, dans les murs et en dehors des murs. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses ou est-ce que je développe encore plus ? Voilà. Non, mais là, pour les animations, j'ai fini. Alors, après, effectivement, il y a tout un travail d'accompagnement du public fragile. L'EVS, donc, pour l'accompagnement de ces publics fragiles, proposera des permanences. Permanences pour certaines qui existent déjà, mais qui seront développées. On peut aussi souligner que les médiateurs sociaux iront aussi beaucoup hors les murs, pas simplement dans l'espace de vie sociale, mais aussi au sein des quartiers, parce qu'on sait très bien que les gens ne viennent pas forcément dans une structure fermée, mais voilà, il est plus facile de rencontrer en dehors le public. Donc, leur rôle sera très, très important. Donc, il est proposé à Monsieur le maire et à mes collègues d'adopter le projet de l'EVS et de l'autoriser à présenter ainsi à la Commission des affaires sociales de la CAF et aussi de solliciter la CAF d'avoir un agrément, pas pour un an, mais pour 4 ans. Et vous aviez aussi en pièce jointe, je tiens à souligner, le calendrier, et vous avez pu voir qu'il est quand même très, très fourni.
Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Madame Agen? Parfait. Je voudrais insister sur le fait que, par ailleurs, il faut vraiment qu'on ait un regard très, très vigilant sur les publics les plus fragiles. On observe depuis maintenant plusieurs années un désengagement net de l'État dans l'accompagnement d'un certain nombre de ces publics. Ça a été encore le cas récemment sur le GIP Relais Logement. Il y a eu aussi un désengagement historique du département, c'était en 2015 ou 16, du contrat de ville. Donc l'ensemble de ces mouvements nous laisse à nous, la ville, la responsabilité d'organiser nos services pour nous assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, qu'il n'y a pas de public qui soit oublié et que des catégories de personnes, que ce soit les adolescents, que ce soit les personnes devant apprendre le français, les mères au foyer, soient oubliées, parce qu'à chaque fois, ces oublis-là, ces erreurs-là, se payent comptant ultérieurement par des situations qui sont beaucoup plus préoccupantes. Donc on a ce travail qui est en cours. On doit réunir également et continuer de réunir les associations qui travaillent auprès de ces différents publics dans le quartier et ailleurs. Et je souhaite vraiment, avec Madame Poirier et Madame Agen, que nous puissions regarder tout ça de près et y mettre à chaque fois les moyens nécessaires. Donc c'est un peu l'idée de ce projet d'établissement qui doit être soumis à la CAF et dont l'adoption conditionne le soutien financier de la CAF auprès de la ville de Nogent-le-Rotrou. Est-ce qu'il y a sur ce point des questions? Monsieur Castagnier.
J'ai une question sur les permanences pour les publics fragiles. Est-ce que ça va comprendre justement des personnes qui souffrent de violences conjugales? Parce que c'est vrai que c'est les violences en plus grande augmentation actuellement, en tout cas sur notre territoire, je pense au niveau national également. Et est-ce qu'il y aura une communication spécifique sur ces publics là, parce que je pense que c'est une priorité, effectivement.
Par ailleurs, donc il y a le CIDFF. Alors, la délégation aux droits des femmes qui est financé par la région au travers du dispositif CAPASSO qui fait des permanences. Maintenant, au pôle enfance-jeunesse, il y a un nombre de structures qu'on n'a pas citées. Si, elles sont citées toutes dans le corps du document, le CICAT et autres. Ce que j'ai voulu, c'est regrouper l'ensemble de ces permanences dans un même lieu plutôt que de les avoir dans différents locaux comme c'était le cas jusqu'ici. Et l'idée, c'est que le pôle enfance-jeunesse, qui est un bâtiment très central, en plus accueillant et moderne, soit le lieu où toutes les équipes travaillent et où tous les publics viennent, ce qui permet d'avoir l'information en réalité. Parce qu'on voit bien historiquement que du jour où l'accueil de loisirs est allé à la communauté de communes et que le centre social est resté à la ville, à la maison du Tertre, dans deux lieux et sous deux structures différentes, on a perdu une partie de l'information nécessaire, c'est-à-dire que une partie du travail et de son efficacité, elle est liée au fait que les agents qui accompagnent les publics fragiles connaissent ces publics fragiles parce que ce sont aussi les parents des enfants qui vont à l'accueil de loisirs et qui sont pris en charge, notamment à travers l'accueil de loisirs. Et ça, c'est quand même c'est la clé de tout. C'est cette proximité et cet échange d'informations qui, aujourd'hui, donc, est restauré et qui est absolument indispensable, puisqu'on voit bien que plus les publics sont fragiles, plus les personnes sont en détresse, plus le lien à l'école et plus, en fait, le dernier lien qui relie les gens aux institutions, ce sont les enfants. La garde des enfants, l'accompagnement des enfants, l'avenir des enfants et la situation des enfants. Donc c'est un peu l'esprit de ce regroupement et c'est ce qui porte la structure du projet d'établissement tel que nous l'avons construite. Et voilà. Pas d'autres questions ? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a sur ce point des abstentions ? Je n'en vois pas. Des oppositions ? Je n'en vois pas non plus. Et donc, adopté. Alors, dans notre mouvement général, évidemment, si on abandonne la maison du tertre pour remettre les équipes du centre social au pôle enfance-jeunesse, la question se pose, alors elle n'a jamais été posée, mais je vous la pose, de savoir que va devenir la maison du tertre, qui est une propriété communale. Alors, je vous la pose et je vous apporte une proposition de réponse immédiatement à travers cette convention de mise à disposition. Il me semble que ce bâtiment, après l'avoir revisité vide, c'est encore différent de lorsqu'il était habité. Il m'a semblé qu'il n'était pas urgent ou opportun de le céder en l'état, qu'il y avait des associations qui pouvaient être intéressées par son occupation. C'est le cas notamment d'ATD Carmonde, qui est une association active sur la commune, bien connue, qui joue un rôle essentiel et qui, notamment, anime le jardin partagé qui se situe juste de l'autre côté du petit chemin qui borde le parc du Tertre, et donc qui avait le projet de tenir des animations qui, pour l'instant, sont toujours itinérantes, soit dans leur local, soit la salle Boucherville, soit dans d'autres lieux, et qui pourraient être regroupées aux alentours du jardin et sur ce site. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre cette maison à disposition pour un an de l'association ATD Carmonde. Et cette année étant l'occasion de leur donner un site pour héberger leurs activités. Alors, nous l'avons proposé là en urgence parce que potentiellement, ça pourrait être des activités qui pourraient commencer dès la fin mai ou début juin, les samedis après-midi. Et par ailleurs, ça nous donne aussi le temps de travailler sur un projet plus global qui pourrait réinvestir la maison du tertre, mais avec une forme associative, un financement régional et surtout donc un objectif qui pourrait être d'y faire venir potentiellement un fournil, des activités de transformation des produits du jardin partagé, d'initiation à la fabrication du pain, aux produits locaux, bio, bref, toutes sortes d'activités qui pourraient, sous le pilotage d'un certain nombre d'associations, dont ATD Carmonde est pour l'instant le principal interlocuteur, permettre de donner une vie à cette maison et à ce site, dont par ailleurs, qui a besoin d'un rafraîchissement à l'intérieur, mais dont par ailleurs les huisseries et la toiture ont été refaites et sont en très bon état en réalité. Voilà l'esprit de cette convention qui nous donne un an pour mener ce projet à terme. Sa réussite dépendant de la mobilisation des bénévoles, des professionnels, mais aussi des financements que nous pourrions négocier auprès de la région sur le même type de dispositif qu'on avait eu par exemple pour faire vivre le café circonflexe ou le chardon et prochainement le chantier. Donc le dispositif dit à vos idées. Voilà un peu le projet que nous nous fixons et le temps que nous nous donnons dans le cadre de cette convention. Mais enfin, il me semble que la Maison du Tertre, elle est exempte par rapport au quartier, enfin au parc social des HLM, mais elle est très proche, enfin, elle dispose quand même d'un cadre de nature qui est intéressant Et beaucoup de Nogentais y sont attachés parce qu'elle a depuis très longtemps servi de maison de quartier, et que lui redonner un sens et permettre d'en faire un lieu associatif où les associations peuvent s'impliquer, c'est un projet qui a du sens à mon avis. Voilà l'esprit. Alors il sera sans doute nécessaire pour aider à l'éclosion de ce projet d'envisager peut-être une subvention exceptionnelle lors d'une décision modificative ultérieure, mais ça nous aurons à en discuter. En attendant, il me semble qu'il faut donner à cette association et à tous ses partenaires le maximum de chances de faire aboutir le projet. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Monsieur Castagnier.
J'ai juste une question en parlant des locaux d'association sur le local de la Croix-Rouge qui nous a interpellé sur la vétusté de son local et qui vous a interpellé aussi, je crois, et auquel vous n'aviez apparemment pas répondu, et par rapport à la fuite de gaz justement de mercredi de la semaine dernière, auquel vous n'aviez pas répondu aussi, je crois, autour de vendredi et samedi. Enfin, en tout cas, on a été interpellés en nous disant que c'était un local qui était très vétuste, effectivement, et puis qui avait eu cette fuite de gaz qui avait pu mettre en danger les bénévoles de la Croix-Rouge. Donc, pour savoir si...
Alors, s'il y a une fuite de gaz, moi, je n'en ai pas eu connaissance. Donc, je ne sais pas qui ils ont averti.
Les services de la mairie, je crois.
Je ne sais pas si...
Donc c'est un peu dommage de pas.
Qui ça ? Le CCAS a été prévenu.
C'est dommage que vous ayez pas été mis au courant, monsieur le maire.
Bah écoutez, nous verrons. Je pense qu'il y a. Enfin bon, quand il y a un problème, il faut savoir frapper aussi la bonne porte. Et par ailleurs, il y a un point peut-être que les. Je ne sais pas qui à la Croix-Rouge vous a interpellé. Enfin, je ne sais pas. Ils sont allés vers vous.
Absolument, oui. Le président. Oui.
Le président.
Oui. Enfin, un membre plutôt de Emmanuel Coudray qui fait partie du. Alors, je ne sais pas s'il fait partie du bureau, mais en tout cas, il est membre de la Croix-Rouge, et je pense que le président a dû essayer de vous contacter. Hein. En tout cas, auprès des services de la mairie, puisque vous étiez au courant, monsieur même, donc.
Bah, écoutez, moi j'ai un téléphone, j'ai une adresse mail. Je le regarde. Donc je prendrai contact avec Monsieur Coudray, mais je ne sais pas à qui il s'adresse quand il prend contact. Alors par contre, ce qu'il vous a peut-être pas dit, c'est que l'avenir de la Croix-Rouge ne s'écrit pas sur ce site. Donc je crois avoir dit très clairement que il me semble que l'accueil de la Croix-Rouge. Alors, la Croix-Rouge aujourd'hui bénéficie d'une mise à disposition gratuite de la ville pour la maison et l'ensemble du terrain. Donc, c'est un bâtiment que nous entretenons, où nous y avons fait d'ailleurs des travaux. Donc, nous le faisons gratuitement, rappelons-le. Et j'estime que ce bâtiment n'est effectivement pas adapté. Alors, je ne referai pas des travaux dans ce bâtiment. Pour une raison simple, c'est que j'ai l'intention de le céder, notamment à la sécurité civile, qui a besoin d'un accès supplémentaire à la rue et de terrains supplémentaires pour y loger notamment des officiers, des cadres, sachant que le site de la sécurité civile est aujourd'hui à la limite de la saturation. Donc j'ai une réflexion en cours sur les différents... possibilités qui pourraient être offertes à la Croix-Rouge pour avoir un local de substitution, un local adapté. J'ai des idées de réorganisation aussi avec le CCAS qui pourrait permettre donc d'avoir des lieux d'accueil uniques. Et ça, je pense que la Croix-Rouge en est pleinement informée. S'ils ne vous en ont pas parlé, c'est qu'ils ont omis de le faire alors qu'ils en sont totalement informés. Donc, sachez-le, et je ne manquerai pas de m'en expliquer personnellement avec le président.
Parfait. Avec délicatesse, comme toujours.
avec courtoisie, comme je le fais à chaque fois, mais avec lucidité sur la réalité des choses et des êtres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'en vois pas. Alors, il me semble... On est épuisé l'ordre du jour, du coup. Alors, du coup, oui. Abstention sur la convention ATD Quart-Monde. Je n'en vois pas. Opposition, elle est donc adoptée. Et je crois qu'on aura un autre conseil municipal à faire prochainement aussi pour refaire des tableaux de financement, puisque nous allons avoir des notifications de subventions de l'État, sans doute aussi des accords de la région. Et nous avons déjà, enfin demain, je crois que le conseil départemental examine la répartition de ces subventions pour l'année. Et donc, je pense qu'il sera proposé demain, pour, s'agissant de la ville de Nogent, une subvention de 90 000 euros pour le jardin d'enfants de La Charmille. Alors, Madame de Soncé n'est pas là, mais ce que je regrette, parce que j'aurais quand même quelques questions à lui poser sur ce point, puisque on avait eu un long débat la dernière fois, vous vous en souvenez, Monsieur Castagnier, sur les subventions du département, où elle avait, Madame de Soncé avait lourdement insisté sur le fait que elle allait plaider un certain nombre de dossiers auprès du département. Il me semble curieux que tous nos dossiers étaient refusés, la place Saint-Paul, tous les dossiers cœur de ville, et que le seul dossier que le département va soutenir financièrement demain, ce soit celui précisément sur lequel Madame de Soncé a voté contre, en disant que ce n'était pas un projet qui marquait suffisamment d'ambition et qu'on aurait mieux fait, à la place du jardin d'enfants, d'avoir d'autres projets comme une médiathèque ou autre. Donc je pose la question de savoir si tout va bien à Chartres, si la communication est bonne, mais je ne voudrais pas que... Voilà, que des quiproquos s'installent pour la suite de nos débats.
Merci, monsieur le maire, je vous laisserai lui poser la question.
Ben, je vous en prie. Mais il me semble quand même assez cocasse de voir que, au bout du processus, le seul dossier retenu, alors qu'il y en avait des plus prioritaires, ce soit celui-là. J'insiste également sur le fait qu'on nous a refusé donc, du coup, la subvention sur le city-stade du Plateau Saint-Jean, au motif que ça n'était pas éligible au FDI. On a le même courrier il y a 2 ans pour le city-stade des Gauchetières qui nous indiquait que le city-stade des Gauchetières était éligible aux subventions du département. Donc là aussi, il y a, voilà, j'aurai sans doute des échanges à avoir.
C'est triste de faire de ce conseil municipal une tribune pour les élections départementales.
Ah, monsieur Castagnier, je ne fais pas, mais je dis simplement que nous aurons un conseil municipal qui devra refaire le point là-dessus. Et que prenez-le plutôt comme l'opportunité d'ici demain de clarifier les choses avec le conseil départemental. Soyons positifs.
Toujours.
Absolument. Bien, l'ordre du jour étant épuisé, je vous propose...
J'ai juste une dernière question.
Oui, je vous en prie.
Je suis désolé. En fait, si je regrette de ne pas pouvoir venir aux cérémonies officielles comme celle du 8 mai, justement, à cause de la situation sanitaire, je voulais savoir s'il était normal de faire installer des mâts aux couleurs des drapeaux français à votre domicile privé par les salariés de la ville. Voilà, c'était vraiment une question pour savoir si...
C'est une question. Alors, vous êtes arrivé à Nogent en 2019, donc il me revient de vous informer que depuis le milieu du 19e siècle, le pavoisement des villes en France inclut celui du domicile du maire.
Mais toutes les traditions ne sont pas forcément bonnes à perpétuer, mais c'était vraiment une question...
Mais le domicile du maire est pavoisé, de même que l'ensemble des plaques commémoratives posées sur les domiciles privés des bâtiments où des faits historiques ont eu lieu. C'est le cas rue Saint-Lazare, c'est le cas rue Gouverneur, c'est le cas dans... Pardon ? C'est le cas au Pont de Bois, c'est le cas dans, il y a au moins une quinzaine d'endroits dans la ville qui sont pavoisés, c'est le cas de tous les bâtiments officiels de la commune également, tous les bâtiments qui accueillent du public, et je n'y attache pas d'importance particulière. Hein.
D'accord. Non, mais c'est parce que moi, je trouve ça complètement normal que ça se fasse au niveau des bâtiments publics ou de la sous-préfecture, mais par rapport à un bâtiment privé, enfin votre domicile privé, c'est vraiment une question.
Le domicile du sous-préfet est pavoisé. Oui, la gendarmerie, la résidence des gendarmes qui n'est pas un. Est pavoisée. La caserne de la gendarmerie qui n'est pas un lieu qui accueille du public, qui n'est pas un lieu officiel, est pavoisée. Enfin, on peut faire le détail, hein, si vous voulez. Voilà. Mais je vous assure que le règlement est le même depuis le 19e siècle, où quand vous regardez les cartes postales anciennes, les photos ou même des tableaux comme la rue Montorgueil, un 14 juillet par Claude Monet, vous verrez que le pavoisement général de l'ensemble des domiciles était la règle et qu'elle reste aujourd'hui. Voilà. Mais si vous voulez qu'on y mette fin, j'y suis... Ça ne me dérange absolument pas.
Ok.
Je m'étais jamais posé la question en réalité, mais voilà.
Ouais. Très bien, merci à vous.
Écoutez, j'espère qu'en tout cas ces couleurs-là ne vous dérangent pas.
Non, pas vraiment.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. L'ordre du jour est donc épuisé. Et donc nous nous reverrons très prochainement, sans doute, pour un certain nombre de décisions rapides. Donc sans doute vers le début juin. Parfait. Merci à vous. J'ajoute, Monsieur Castagnier, que le domicile du député aussi était traditionnellement et est traditionnellement pavoisé. Mais si vous voudrez bien m'indiquer le domicile du député, le domicile du conseiller départemental à Nogent, je ne manquerai pas de faire le nécessaire.